première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ? Un compositeur pourrait être un phare pour un autre et lui écrire. Vous êtes un virage extrêmement important dont je m'estime être le panneau signalisateur. Vous pouvez brûler ce panneau et passer outre, mais j'ai l'intention, vis-à-vis de vous, de faire mon devoir jusqu'au bout. Une manière de lui renvoyer l'appareil est en miroir pour le compositeur qui reçoit le panneau signalisateur de lui-même, faire feu d'avertissement en lui répondant. Vous êtes si vivement intelligent que vous vous trompez plus radicalement que la moyenne. Vous voyez, vous raisonnez, et puis vous cessez d'observer. Ces phrases en équilibre entre estime et défiance sont extraites des lettres que se sont échangées à la fin des années 50 Pierre Schaeffer et Yannis Xenakis. Le premier avait fondé une dizaine d'années plus tôt la musique concrète et le second venait de réaliser Concret PH pour le pavillon Philips de l'exposition universelle de Bruxelles. Deux compositeurs qui partageaient le point commun d'avoir été formés à Polytech et qui avaient certainement une grande conscience de l'importance de l'autre, mais qui n'avaient pas la même conception des rapports entre musique et science. Pour tenter de comprendre les tenants et aboutissants de la querelle, et pour reconstituer les raisons, les sentiments qui ont alimenté la brouille entre les deux compositeurs, David Christoffel est entouré de deux témoins majeurs. Jacqueline Schaeffer, qui a été la compagne de Pierre Schaeffer de 1959 jusqu'à la mort de Pierre en 1995, et Maki Xenakis, la fille de Yannis Xenakis, mais aussi deux musicologues qui se sont intéressés à l'un et à l'autre des compositeurs, côté Xenakis, Pierre Carré, et côté Schaeffer, Nicolas de Bade.
Un court extrait de Concret PH de Yannis Xenakis. Bonjour Pierre Carré.
Bonjour.
C'est une pièce de 1958.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que ça s'appelle Concret du fait de Pierre Schaeffer ?
Alors, Concret, normalement, ça fait plutôt référence au béton armé.
Oui.
Concrete en anglais. Et PH pour parabolique, hyperbolique.
Ah oui, c'est pas pour potentiel hydrogène.
Non. Ça aurait pu, mais non.
Et donc c'est une œuvre qu'il compose sur les équipements Philips de Paris, qui est projetée sur 400 haut-parleurs dans le pavillon Philips de l'exposition universelle de Bruxelles.
Oui. Exactement, oui. Donc en effet, ça reste une œuvre de musique concrète, dans le sens où ce sont des enregistrements de charbon ardent qu'on entend éclater, qui sont ensuite montés pour créer une masse de sons importante. Mais je pense que c'est une musique concrète parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité à l'époque, en fait. C'est que Xenakis aurait probablement synthétisé, s'il avait pu, cette musique-là.
C'est-à-dire produire des sons par les ordinateurs plutôt que d'envoyer des sons déjà produits, déjà enregistrés.
C'est ça. Ouais. Ou en tout cas, disons qu'il aurait probablement fait un montage qui soit informatisé. Puisque là, il a dû très péniblement découper des morceaux de bande, les monter un à un pour créer cette grande densité de son, alors que avec un ordinateur aujourd'hui c'est très facile à faire. À l'époque, ça a dû demander je ne sais pas combien de jours de travail, c'était sûrement très long labeur.
Le GRM n'est pas impliqué, Nicolas de Bade, dans cette œuvre-là ?
Non, tout à fait. C'est pas une pièce qui a été. En effet, ça a été enregistré dans les studios de Philips à Paris pour être diffusé au pavillon Philips. Mais par contre, à la même époque, Yannis Xenakis a enregistré Diamorphose au GRM.
Oui.
Et pour l'anecdote, cette pièce a été diffusée au pavillon français lors de l'exposition universelle, au même titre que deux études de Pierre Schaeffer et deux autres de Luc Ferrari.
À la même exposition universelle,
à la même université,
58.
Tout à fait.
Ouais.
Oui. Et pour l'anecdote, Concrète PH a aussi été réenregistrée. Il y a une version stéréo de 61 au GRM dans les mêmes conditions. D'enregistrement. Il y a une prise qui a été faite en stéréo aussi.
Jacqueline Schaeffer, en 1958, avec Pierre Schaeffer et Yannis Oxenakis, les relations sont plutôt bonnes encore ?
Moi, je n'y étais pas. Hein.
Oui.
Je ne peux pas vous dire. Je suis là que vraiment fin 59.
Oui.
Et je vais vous raconter quelque chose de drôle. C'est que ma relation à Pierre Schaeffer débute. Elle est sous les auspices de Yannis.
Vous voulez dire que c'est quand même grâce à Xenakis que vous avez
rencontré
Schaeffer.
C'était un concert de Xenakis, je suis assise par terre, et Pierre Schaeffer, qui m'avait rencontré parce que ma mère était une de ses fans, il me voit là. Et le lendemain, nous allons au théâtre qui est devenu Marie-Belle, qui était à l'époque le gymnase. Marie-Belle avait demandé pour la pièce de Phèdre que ce soit Schaeffer qui fasse la musique. Et donc, il m'emmène pour tester l'acoustique. Je tape dans mes mains, je monte dans tous les étages.
On en écoutera un extrait tout à l'heure. Ouais,
Je m'arrête, si vous voulez.
Non.
Mais c'est simplement pour dire que Xenakis est là, à la base de ma relation avec Pierre. C'est quand même très amusant.
Et donc, vous le connaissez fin 59, c'est-à-dire le moment où...
C'est fin 59.
Oui, fin 59. Alors, Xenakis, vous avez retrouvé la lettre que Messiaen adresse à Pierre Schaeffer pour attirer son attention sur votre père. C'est une lettre du 6 juillet 54, où Messiaen, donc, écrit à Schaeffer: « Cher ami, je viens vous recommander tout spécialement mon élève et ami Yannis Oxenakis, qui est grec et très extraordinairement doué pour la musique et le rythme. Il m'a montré tout dernièrement une partition assez volumineuse intitulée Le Sacrifice, utilisant un petit orchestre dont l'esprit de recherche rythmique m'a séduit. » Et un peu plus loin dans la lettre, il dit: « Si vous pouvez faire jouer cette œuvre, ce serait pour lui une grande joie et une occasion de progrès. D'autre part, il est désireux de faire de la musique concrète. » Donc il y a déjà deux motivations. L'idée d'intégrer cette mouvance qui est encore assez jeune de la musique concrète, puisque ça commence en 1948, 6 ans plus tôt. Et puis l'idée surtout que Pierre Schaeffer programme Yannis Oxenakis à la radio.
Oui, moi j'étais là, mais j'étais un peu petite, donc oui. J'ai pas de témoignage à donner.
Si ce n'est que cette lettre-là, elle n'a pas eu d'effet immédiat, Pierre Carré.
Pour oui, l'intégration alors, de Schaeffer à qui m'aidera peut-être, ouais. Mais j'ai plus la chronologie exacte en tête, mais cette lettre date de 54 et Xenakis ne rentre pas immédiatement au GRM. Il faut que Pierre-Henri insiste
voilà,
un petit peu pour que finalement Xenakis puisse y entrer. Il faut dire qu'à l'époque, Xenakis est encore jeune compositeur, il n'est pas connu du tout. Enfin, il va faire une entrée fracassante juste après dans le milieu de la musique contemporaine avec Métastasis. Mais avant ça, voilà, Le Sacrifice n'est une partition qui n'est pas jouée. Pierre Schaeffer ne va pas s'y intéresser apparemment et il la montrera à Hermann Scherchen qui refusera de la diriger. Par contre, il voudra bien jouer Métastasis. Donc voilà, à ce moment-là, Xenakis, en fait, il a peu de partitions à montrer. Il n'a pas été joué encore, donc c'est un peu un inconnu. Donc ça explique peut-être aussi l'attitude de Schaeffer potentielle.
Dans un précédent épisode de Métaclassique auquel vous aviez participé, Mackie, qui était l'épisode intitulé Foncé, on avait un peu raconté le début de la formation de Xenakis en France. Il passe par l'école normale supérieure de musique où ça se passe pas super bien avec Arthur Honegger.
Il y avait Darius Milhaud, Honegger, ouais. Et Nadia Boulanger. Et Nadia Boulanger apparemment était un petit peu plus gentille, mais Honegger et Milhaud lui ont dit: c'est pas de la musique ce que vous faites, laissez tomber quoi, faites autre chose.
Et notamment parce qu'il y avait des quintes parallèles.
Voilà, mon père a noté dans une partition qu'il avait montré à Darius Milhaud, hein, ou Honegger, ça y est.
Ça doit être Honegger, je crois.
Honegger, oui. La réaction de Honegger en disant: là, il y a des octaves, c'est pas de la musique, laissez tomber. Et mon père a réécrit ça dans la partition. Parce qu'il faut voir que mon père, je pense que c'est important de comprendre qu'à l'époque, il était jeune par rapport aux autres. Tout le monde trouvait justement qu'il était un peu vieux par rapport aux autres, puisqu'il arrivait avec la trentaine déjà, et il avait fait la résistance en Grèce. Il avait perdu la moitié de son visage, il avait fait de la politique, et puis tout d'un coup il se remettait à la musique, et donc tout le monde disait Non seulement c'est un métèque, mais en plus il est vieux quoi par rapport à nous et il connaît rien, il connaît pas les usages d'ici. Donc il va jamais y arriver en gros, c'était ça. Donc il fallait qu'il se batte et comme il s'était déjà battu pendant la guerre et la résistance, quand on l'embêtait, il se laissait pas faire.
Mais si on lui fait bon accueil, en revanche, au Conservatoire de Paris, dans la classe de composition, et donc va jusqu'à le recommander à Schaeffer. Et on va commencer alors à aborder la question de leurs différends. On pourrait dire que finalement, leurs différends commencent par leur polytechnique, puisque Pierre Carré, vous relevez à quel point la formation n'est pas exactement la même à Polytechnique Athènes et à Polytechnique Paris.
Oui, en effet, en fait, l'école polytechnique d'Athènes, c'est l'université. Et Xenakis, il fait là-bas des études en tant qu'ingénieur des structures. Il fait un mémoire sur le béton armé. C'est pour ça, notamment, qu'il va pouvoir rentrer chez Le Corbusier, parce que ça l'intéresse particulièrement. Il a vraiment une formation qui est axée sur l'ingénierie des structures, qu'il a suivi bon l'an mal an à Athènes durant la guerre, en fait, au milieu de ses activités de résistance, des fermetures de l'école, etc.
Donc il est plus dans un esprit d'ingénieur, d'architecte, que dans un esprit de chercheur au sens un peu fondamental de Schaeffer.
Oui, c'est ça. Il n'est pas du tout chercheur, en fait. Enfin, ouais. Il a bien sûr une démarche de recherche dans sa musique, mais c'est une recherche artistique. Ce n'est pas une recherche scientifique. Et oui, c'est un ingénieur avant tout.
Alors l'exercice qu'on est en train de faire, d'essayer d'expliciter scientifiquement leurs différends, il a déjà et presque été anticipé par Pierre Schaeffer lui-même dans un texte qui s'appelle « La musique et les ordinateurs » où il dit qu'il y a deux cas limites, les démarches de chercheurs qui s'obstinent soit à utiliser l'ordinateur en musicologue pour déchiffrer des lois, il pense à Forte, soit en compositeur pour lui fournir a priori la loi préconçue de telle ou telle musique, et là il pense à Xenakis. Donc d'une certaine façon, Nicolas Debade, Schaeffer reproche à Xenakis de mal utiliser les mathématiques.
De ce qu'il lui reproche surtout, j'ai l'impression, c'est d'utiliser les mathématiques de manière arbitraire, mais surtout, enfin pour paraphraser schématiquement Schaeffer, de manière un peu quand ça l'arrange, dans le sens où soit il va utiliser les mathématiques des combinatoires ou les statistiques ou éventuellement des schémas géométriques pour définir un matériau préalable, soit au niveau de la forme, de pouvoir éventuellement lui suggérer par des règles mathématiques des structurations au niveau des enchaînements, des pièces, des rapports et de la structuration de chaque pièce. Et ce que Schaeffer lui reproche d'une certaine manière, c'est finalement de ne pas être totalement rigoureux dans le sens où il y a toujours de l'arbitraire ou de l'aléatoire d'une certaine manière. Mais en même temps, enfin, c'est assez contradictoire parce que je pense que les deux étaient quand même très instinctifs malgré tout et travaillaient certes de manière différente et ne recherchaient pas les mêmes objectifs en termes de composition.
C'est-à-dire qu'il aurait pu se reprocher à lui-même finalement ce qu'il reprochait à Xenakis, c'est ça ?
Pas au même endroit, je dirais.
Non, pas vraiment.
Pas vraiment, Jacqueline Schaeffer.
C'est pas vraiment ça, je crois. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est leur conception, effectivement, est très différente. Il y a, il y a l'opposition de l'entendre, de l'écoute, qui est intéressante. Parce que pour Schaeffer, écouter, entendre, c'est écouter, entendre, c'est cette opposition, alors que pour Yanis, c'est comprendre. L'écoute, c'est comprendre. Alors pour Pierre Schaeffer, c'était vraiment cette écoute physiologique, bien sûr, mais qui était avant tout l'écoute. C'est-à-dire que la musique, elle est faite pour être entendue, c'était son axiome. Mais je crois que Yanis allait plus loin. Il voulait faire quelque chose qui... Il a même des paroles, je veux modifier l'humanité. Enfin, il avait des paroles comme ça, extrêmement... Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi à dire, c'est que Pierre Schaeffer, il a commis un article qui s'appelle « La musique et le pétrole », où il montre comment la musique sort des entrailles de la Terre. C'est quelque chose de fossile. Et c'est très intéressant parce qu'il pense que vraiment ça surgit comme ça, alors que Yanis, lui, c'était la nature et c'était évidemment tout ce qui était de la Grèce antique, enfin la mythologie, et puis les montagnes, les chèvres, tout ça c'était quelque chose qui était très intéressant, mais qui les opposait beaucoup, parce qu'il y en a un qui voulait rechercher les fondements, et c'était pas le... Bon, il y en a un qui était plutôt dans le ciel et l'autre plutôt dans les entrailles de la terre. C'est ça que je voudrais dire.
D'accord, vous êtes d'accord, Maki, avec l'opposition fondement chèvre, si je comprends.
J'aime bien les chèvres avec les licornes.
Oui, ça c'est, le politope de Mycène où il mettait des lumières sur les chèvres dans la nuit, mais qui traversait les montagnes pour faire un politope. Voilà. Mais je dirais plutôt que lui, il se référait au cosmos.
C'est ça.
Donc effectivement, c'est ça. Le ciel, mais l'espace,
voilà.
Le cosmos, la nature, dans ce que ça représente de plus important et de plus général possible. Pas juste les arbres, la mer et...
Non, mais tous les deux sont très profondément liés à la nature, je crois. Et la nature des sons, je crois. Oui. C'est là que ça les rapproche beaucoup. Là, on peut les réconcilier vraiment.
Oui, et ils ne mettent pas les mathématiques au même endroit dans le rapport à la nature, précisément. Parce que donc, Schaeffer reproche à Xenakis, toujours dans ce texte, La musique et les ordinateurs, sa foi aveugle en ce qu'il appelle le déterminisme, bien entendu revu et corrigé par l'indéterminisme, à condition toutefois que tous les deux obéissent à la loi des grands nombres, comme en témoigne la théorie cinétique des gaz. Et là, Schaeffer écrit « Les Grecs sont tous les mêmes et Démocrite n'est pas loin ». Qu'est-ce qu'il avait contre Démocrite ?
Oh, je ne sais pas, alors ça ne me demandez pas ça, moi je ne suis pas assez calée. Mais je sais qu'à un moment il dit, vous êtes aussi comme Socrate, il lui dit, Yannis, il dit ça à Schaeffer. Vous êtes, je ne sais plus très bien où.
Il y a peut-être quand même un hellénisme schaefferien. On va écouter un extrait de ce Phèdre de 1959.
Tu vas jouir le comble des horreurs. J'aime. De l'amour, j'ai toutes les fureurs. C'est Vénus tout entière tout en sa proie attachée. C'est Vénus tout entière tout en sa proie attachée. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Vénus tout entière.
C'était Marie-Belle, donc, dans le rôle de Phèdre en 1959. Il y aura ensuite tout un travail avec Pierre-Henri sur Orphée. Il y a quand même, c'est ça, une espèce d'intérêt pour la tragédie grecque de la part de ces compositeurs-là.
Enfin, Schaeffer a toujours été travaillé par ces grandes figures. Enfin, Orphée, c'est vraiment la figure tutélaire qui le suit plus ou moins, presque malgré lui, enfin, à terme, jusqu'à... Enfin, tout le long de sa carrière. Enfin, effectivement, il y a le... Alors, Orphée, c'est un petit peu avant quand même. C'est 51. D'abord, il y a Symphonie pour un homme seul, en 50. 51, il y a Orphée, puis 53. Encore, c'était le travail de collaboration entre Pierre-Henri et Pierre Schaeffer. Ensuite, vers 54, il y a un genre de hiatus qui commence à s'installer plus ou moins. Pierre-Henri travaille de son côté sur le voile d'Orphée, qui va ensuite être utilisé notamment dans le cadre d'un autre ballet de Béjart en 62, je crois, si je ne m'abuse. Et on est dans ce contexte-là, justement, de Xenakis aussi, qui est proche, qui est membre du GRM et qui participe au service de la recherche dans le contexte, effectivement, du travail de création et de recherche au GRM. Et au moment, d'ailleurs, où Pierre-Henri est parti aux alentours de 58 pour notamment former son propre studio et développer son activité de compositeur à 100%, quoi.
L'échange auquel je faisais référence en ouvrant l'émission, c'est une lettre du 29 novembre 1959. Donc Pierre Schaeffer adresse à Yanis Xenakis. C'est là qu'il lui dit, voilà, vous êtes à un virage extrêmement important dont je m'estime être le panneau signalisateur. Et plus loin, donc, il va dire dans la lettre des choses assez désobligeantes à propos d'analogie, l'œuvre de Xenakis. Et il dit, j'ai assez d'amitié pour vous et assez d'estime pour votre inspiration et votre énergie pour ne pas souhaiter avant tout que vous preniez une voie féconde. Or, je crois de toute mes forces, qu'en toute bonne foi, vous êtes en train de vous tromper. Je voudrais vous expliquer quelles sont, à mon sens, vos erreurs de base. Et ces erreurs de base, c'est de rechercher, dit-il par instinct, des matériaux sonores justiciables de mesures chiffrées. Est-ce que, Pierre Carré, vous considérez que c'est un faux procès fait à Xenakis? Parce qu'en marge, Xenakis, il écrit « Non, il ne faut pas être bête ».
Oui, alors en effet, cette lettre est assez géniale parce qu'on a la préparation de la réponse de Xenakis dans la lettre. Donc dans la marge, il y a beaucoup d'annotations, Xenakis se défend ou prépare son argumentaire, voilà, ou parfois montre là où il trouve que Schaeffer est de mauvaise foi, selon lui. Oui, je pense que c'est une sorte de faux procès, je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas que Xenakis cherche des résultats sonores qui soient justiciables de calcul, mais c'est plutôt l'inverse. Il a une démarche spéculative, au sens où il va tenter d'utiliser musicalement des théories scientifiques, des analogies avec des modèles physiques qui n'ont pas été utilisés jusqu'à présent. Donc c'est pas forcément évident d'avoir une idée du rendu sonore. Donc en cela, il y a une forme de spéculation dans la démarche. Mais pour autant, c'est toujours passé au rasoir de l'écoute. Et cette référence à l'écoute, c'est peut-être d'ailleurs ce qui relie les deux compositeurs, c'est qu'elle est permanente. Alors bien sûr, elle est permanente chez Schaeffer, puisque c'est en gros le fondateur de la psychoacoustique. Donc, c'est ça qui va vraiment diriger sa recherche. Et chez Xenakis, en fait, elle est toujours là, déjà en juge de paix, puisque, bon, ça, Schaeffer n'est pas dupe. Il lui fait remarquer qu'il change sans cesse les résultats de ses calculs, qu'il opère un tri, qu'il jette, qu'il rectifie, etc. Et bon, ça, c'est bien connu, en fait. De la part de Xenakis, ce travail de tri. Mais il y a cette référence à l'écoute qui est permanente. Si on lit Xenakis, il parle sans cesse d'une écoute qu'il souhaite nouvelle, justement. Enfin, qu'il souhaite laver de préjugés culturels. Donc c'est pour ça qu'il parle. Il y a un titre d'un de ses ouvrages d'entretien qui s'appelle « Il faut être constamment un immigré ». Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'il le prend. C'est un immigré culturel. Donc ne pas écouter une musique avec des préjugés. Il parle dans certaines interviews d'écouter la musique comme un nouveau-né. Il fait l'analogie aussi avec un aveugle qui recouvrirait soudainement la vue. Voilà. Et donc ça lui sert à la fois d'attitude d'écoute. Et puis aussi en tant que compositeur, de manière de poser aussi un cadre théorique et de poser des outils conceptuels, en fait, pour créer sa musique.
Mais en fait, moi, j'arrive pas à bien comprendre si Schaeffer lui reproche ses calculs ou de ne pas tant que ça s'enfermer dans les calculs qu'il prétend être moteur. Parce qu'il a des phrases de ce point de vue assez ambiguës. Il dit « Vous désirez trouver des processus qui puissent prendre en charge l'organisation et où soient nettement séparés l'intervention de l'arbitraire et le déroulement d'un déterminisme, même aléatoire. » Donc, il n'a pas l'air d'être intolérant à l'idée qu'il y ait de l'aléa. « Enfin, une fois obtenus certains résultats sonores au moyen d'un labeur acharné, vous intervenez dans ces résultats pour les rendre, par montage, aussi intéressants que possible. » Et dans les annotations ou prévisions de réponse que fait Xenakis, il écrit « Oui, car j'expérimente », donc il revendique l'expérimentation, figurez-vous, « et ce qui me déplaît, je le corrige, la théorie, entre parenthèses, la prévision, si elle est fausse, qui est le juge, je la modifie. » Et donc c'est comme si ce qu'il conteste à Schaeffer n'est pas de remettre en question son procédé, mais de se mettre juge de là où il fait la modification, en quelque sorte, non ?
Alors oui, en effet, là, il le dit explicitement, hein, qu'il se met en juge du résultat musical. Peut-être que ce que reproche Schaeffer et Xenakis là-dessus, finalement, c'est son absence de rigueur.
D'accord.
Je peux supposer, c'est qu'en fait,
oui,
Xenakis,
que
il fait les choses de manière très, très artisanale.
Ou de ne pas avoir la même définition de la rigueur, en tout cas.
Je pense que Xenakis savait qu'il n'était pas rigoureux non plus de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, il va poser des outils conceptuels, il s'en sert pour générer du matériau, par exemple, et puis à la fin, si ça lui plaît, si ça lui plaît, il le garde, si ça lui déplaît, il le rejette. Et puis, en effet, c'est pas rare qu'après... disons, ce soit une première étape de la composition. Après, il y a une étape de montage, il y a une étape de transformation qui, sans ça, le matériau ne se suffirait peut-être pas à lui-même. Donc, Ouais. C'est peut-être que c'est le fait de ne pas aller jusqu'au bout dans la formalisation, dans le fait de si le résultat ne convient pas, peut-être que Schaeffer aurait souhaité que Xenakis revienne plutôt à un stade de changer la théorie ou changer les outils conceptuels qu'il y a derrière, plutôt que de bidouiller le résultat pour arriver à ce qu'il y a.
Oui, ça, si je peux intervenir, oui, c'est vrai qu'il a toujours été attaqué là-dessus, même bien plus tard.
Pas que par Schaeffer.
Et au début, il n'était pas connu, donc il répondait qu'à Schaeffer. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu dans des entretiens beaucoup plus tard qu'il précisait qu'effectivement, parce que c'est vrai qu'il aimait beaucoup les mathématiques, il était passionné par les mathématiques. Moi, il m'a cassé la vie avec cette idée qu'il fallait que je devienne une grande mathématicienne alors que je ne comprenais rien. Mais donc, il aimait ça, vraiment. Il était passionné par ça. Il y a des livres de mathématiques dans sa bibliothèque par centaines. Mais il disait toujours, je suis un modèle mathématique pour ma musique. Quand je décide de prendre un modèle mathématique. Mais si le résultat sonore ne me plaît pas, je change le résultat que les mathématiques m'ont proposé pour que ça me plaise à l'oreille. Donc ça, c'est clair. C'est pas...
Jacqueline Schaeffer.
Moi, je ne crois pas que Schaeffer était tellement dogmatique. Je crois qu'il était capable aussi de modifier. Vraiment, il était avant tout un expérimentateur. Hein. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette correspondance, c'est que chacun se cherche. Il s'aime beaucoup. Et chacun veut aller vers l'autre, essayer de comprendre. Alors j'ai cette phrase justement en réponse à cette fameuse lettre où Yanis dit « Si vous voulez me comprendre, comme vous dites, amicalement, prenez-moi par la main et allons dans un coin jusqu'à épuisement du sujet. » Et chacun fait toujours le mouvement vers l'autre.
Et la phrase d'après, c'est « Si vous n'avez pas le temps, cessez au moins d'avoir un parti pris. »
Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est une histoire, moi, une histoire vraiment amoureuse. Avec des déceptions, avec vraiment tout ce qui se passe dans une histoire de couple amoureux.
Parce que toutes les lettres quasiment de Schaeffer à Xenakis commencent par dire « Bon, on va séparer l'amical du musical » et ça se finit toujours quand même par le remêler.
Et oui, ils ne pouvaient pas s'empêcher d'être amis. Hein. C'est difficile. Hein. Ils étaient très amis. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Moi, Marquis était très jeune. Moi, j'étais quand même un peu plus âgée. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de relations amicales. Et puis, vraiment, je dois dire que Françoise était... J'adorais Françoise. Elle était tellement drôle, Françoise Xenakis. Tellement... Et on a eu des moments de rire beaucoup, tous ensemble. Bon.
Nicolas Debray.
C'est vrai que... On pourrait mettre en évidence une complicité, une relation presque de pair à pair, hein, parce qu'effectivement, Xenakis, par rapport aux autres membres du GRM, les autres compositeurs qui côtoyaient le GRM, il était un petit peu plus âgé qu'eux, et il était pas si... Enfin, alors, il était de ce fait plus proche de Schaeffer, et venant aussi avec une certaine expérience professionnelle et de la vie, ayant déjà travaillé pour Le Corbusier, Pierre Schaeffer ayant déjà travaillé avec Pierre-Henri et avec les résultats qu'on connaît et également les oppositions conceptuelles qu'on peut connaître entre les deux, on peut imaginer que certes, il y a un intérêt réciproque, mais il y a aussi, bon, d'une part, on a l'impression que ça fait comme un genre de couple qui essaye de se parler mais qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas le même langage, qui n'arrivent pas à entendre ce que l'autre lui dit. Et de manière réciproque, hein, tout en se disant de temps en temps des gentillesses, mais en remettant une couche de vacherie par derrière des deux côtés.
Dans l'ensemble des lettres que vous avez de votre père, Maquis, c'est quand même celles de Schaeffer qui sont le plus griffonnées. Donc il a une passion particulière à l'endroit. Parce qu'il y en a eu d'autres, des vacheries qu'il a pu recevoir d'autres compositeurs.
Bien sûr, oui. Et c'est les seuls qui sont griffonnés à ce point-là. Mais ce que je trouve étonnant en relisant ces lettres, et ce qu'écrit Schaeffer et ce que répond mon père, comme dit Pierre, dans la marge d'abord, en s'énervant ou en justifiant, en préparant sa réponse, le brouillon plus après la lettre qu'il va envoyer, le temps que ces deux-là ont passé, non pas en face à face, mais en s'écrivant, taper à la machine à l'époque, c'était taper à la machine. Le temps qu'ils ont passé pour argumenter, pour se dire qu'ils s'aimaient, pour se dire qu'ils se détestaient, pour se dire qu'ils avaient tort, qu'il avait tort, qu'il avait raison. C'est fou, ça n'existe plus aujourd'hui, nulle part, une telle relation.
Oui, absolument, je suis bien d'accord.
On s'envoie un texto,
d'ailleurs,
j'ai fait dire,
ou c'est vous qui vous trompez ou c'est moi.
Oui.
J'ai dit carrément ça, je fais. Donc, il y avait la possibilité que vous ne savez pas qui.
En fait, ils aimaient bien, quoi. Polémiquer chacun
bien
dans
sûr,
leur coin.
On va écouter un extrait d'une pièce de Xenakis dédiée à Pierre Schaeffer qui s'intitule Beau Or de 1962.
Oh mon Dieu.
Et donc, quand on dit beau or, vous répondez « Oh mon Dieu ».
Oui, oui, parce que Pierre a détesté. Alors, je vais quand même vous dire comment il l'a dit. Parce que dans les chroniques zénakiennes, il dit que voilà, ça se passait dans un engin spatial. Et là, il fait une aventure extraordinaire. Et il dit, quand Yanis arrive, il descendait d'un gros modèle des usines Le Corbusier. Et parmi nos modestes provisions, il n'a retenu que le feu de bois. C'est la première œuvre qu'on a entendue tout à l'heure. Des myriades d'impulsions, toutes semblables entre elles, mais se détachant suivant le processus stochastique. Que Zeus nous bénisse. Avec Yanis, avec une ferveur religieuse, penchait son écuelle à son micro directif sur des braises rougeoyantes pour recueillir le nectar du demi-dieu Stoka, son complice. En vérité, Yanis de l'Olympe, tomber dans notre nid, c'était le coucou de l'histoire. Il y a des choses très, très drôles.
Mais c'est presque ce qu'il lui reproche, en fait, son programme poétique. Là, on n'est plus tant que ça.
Ah, mais
dans
sont tous les deux
de
très poètes. Hein.
Oui,
sont
mais
tous
pas
les
au
deux
même endroit.
Très poètes, mais
oui.
Pas au même endroit.
Oui. Oui, juste pour remettre, cet article, c'est oui. Un article qui a été publié dans un recueil de textes qui s'appelle Regard sur Xenakis, qui a été publié en 81. Je crois que le texte date de 79, donc c'est bien après.
C'est bien après les histoires qu'on est en train de
Oui, et c'est la lettre est assez drôle parce qu'elle est très. C'est Pierre Schaeffer qui demande à son ordinateur de lui parler de la première rencontre avec Xenakis. C'est assez drôle en fait.
Ah oui, donc il remet en scène une espèce de fausse intelligence artificielle.
Alors, je peux poursuivre si vous voulez, c'est drôle. À vrai dire, il s'en fichait l'univers, sauf deux ou trois exceptions. La Révolution grecque, sa femme Françoise et la courbe en cloche. Alors, il raconte justement le Bohor. Il dit « Bohor, c'était pire. Le feu de bois des débuts, ça n'était que des petites braises, chacune avec son tilt. C'était Mais là, Bohor, c'était une énorme pétarade. » Je crois que ça avait été projeté très très fort. Pétarade, une accumulation. Et voyez les erreurs de l'amitié, c'est cette œuvre-là entre toutes qui m'avait dédié Yanis pour tant d'années de compagnonnage. Alors il dit qu'une musique ne dise rien puisqu'elle n'a rien à dire, entre guillemets, et qu'on la supporte pour l'une ou d'autres des raisons contemporaines, ça c'est une chose. Mais qu'on se torde le colimaçon, qu'on se fracture les osselets, qu'on se fendille le tympan, même avec l'assentiment de poisson, c'était plus que je ne pouvais en subir.
Eh bien, Pierre Carré.
Oui, alors en effet, c'est vrai que Bohor, notamment, Xenakis jouait de manière très très forte sa musique.
Il y avait des larcènes, c'est ça qu'il n'a pas supporté.
C'était un bruitiste ou un saturationniste avant l'heure.
Oui, on peut dire ça, en quelque sorte.
Il avait besoin d'entendre fou.
Et en particulier, Bohor, je crois, il y a des recensions de la création où...
Moi, j'y étais, je me souviens.
Était.
Et mon père, il allait remonter les. Mon père allait remonter les boutons et.
Oui. C'était jamais assez fort.
C'est pour ça qu'il y a cette réaction.
Pour les polytopes, pareil.
Revaud Dallone en parle. Il disait qu'il y avait eu des défections, je crois, dans le public.
Oui, il y a des gens qui sont partis.
Le volume était tellement insoutenable que des gens sont partis.
Avant, c'est ça.
Bon, comme dans tous les concerts bruitistes.
Voilà.
Oui, ça.
Tous, non, pas tous.
Mais je pense, pour revenir à l'idée du projet poétique, qu'en effet, il y a peut-être quelque chose là-dessous, à savoir que. Il semblerait quand même que Schaeffer n'aime pas la musique de Xenakis, au fond.
Oui, c'est ça.
Malgré tout. Ce qui ressort des lettres, à chaque fois, il commence en disant « Je vous admire du point de vue intellectuel, etc. Enfin, je vous respecte, etc. Ceci étant dit, votre musique, admirable en tout point, je ne l'apprécie pas. Enfin, cette pièce-ci n'est pas bien, etc. Cette pièce-là n'est pas bien non plus. » Et ensuite, il commence à rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, Xenakis finit par prendre un peu la mouche avec ça. Il y a une lettre qui est successive à la création de Stratégie, donc en 61, je crois, dans laquelle Schaeffer a été donc écouté la création, donc cette pièce pour deux orchestres, qui suit une sorte de matrice de jeu, donc qui rentre en compétition l'un avec l'autre. Et Schaeffer lui dit, voilà, je pense que je n'ai pas aimé cette pièce, je pense que vous faites fausse route, etc. Ceci étant dit, nous sommes amis. Et Xenakis lui répond, certes, mais bon, à chaque fois que vous écoutez une de mes pièces, ce que vous me dites, c'est que c'est toujours pas bien. Donc, et puis il ressort des citations.
Ah oui, il fait la liste.
Il fait la liste, ça arrache les oreilles, ça c'est mal fait, ça, selon toute objectivité, c'est mal réalisé, je sais pas quoi, voilà, des choses comme ça, des jugements de
valeur. Alors je l'ai la liste. Diamorphose n'est pas de la musique, analogique encore moins, Orient-Occident, silence tombale, Bohor, une ineptie, etc.
Voilà. Donc,
on peut pas faire mieux.
Alors je sais pas si c'est que des citations verbatim ou si c'est des recollections un peu.
Oui,
c'est mon père
qui a écrit ça. C'est sûrement
c'est
dans l'esprit.
C'est lui qui écrit ça, oui, bien sûr. Ouais.
Donc voilà, je pense quand même que cette dimension-là est pas. Enfin, il faut la considérer dans cette sorte de discorde qui est entre les deux hommes.
Ouais. Mais effectivement, comme vous dites, Jacqueline Schaeffer, il y a vraiment une passion au sens où il y a le côté Xenakis qui répond si vous me cherchez, alors prenez la peine de me trouver, en quelque sorte. Ouais. Puisqu'il lui écrit vous me prenez pour un imbécile, ou bien alors vous êtes de mauvaise foi, je préfère croire que vous n'avez pas compris. Je ne noie pas le poisson, ce n'est pas de ma faute si vous ne pouvez ni ne voulez suivre le résultat de mes recherches.
Voilà. Mm.
Nicolas Debanon, peut peut-être raconter l'histoire du concert collectif, parce que alors là, ils se sont entendus pour mieux se malentendre, en quelque sorte.
Bah, c'est un petit peu en parallèle de tout cela.
C'est en quelle année ?
C'est entre 59 et 62. Et
donc là, on a un projet du GRM.
C'est ça, tout à fait. Et ça correspond à une des missions qui a été confiée à Xenakis dans le cadre de ses activités au GRM, qui était, et des activités donc dans le cadre de la création du service de la recherche. Ça a été une expérimentation autour d'un projet de Schaeffer qui était de faire un concerto grosso réunissant des mouvements de compositeurs différents et de travailler sur la manière dont on structure une
un peu comme l'Hexaméron de Liszt, Thalberg et compagnie au XIXe siècle.
Oui, et donc de questionner le processus créatif au sein d'une même équipe de compositeurs. Alors là, j'ai la liste des premiers membres avec Chamas Kirou, donc Mireille Chamas, qui était une assistante de Pierre Schaeffer, qui a beaucoup participé. On n'a pas encore mentionné, mais on l'a suggéré.
Et qu'il prend en exemple dans une lettre à Xenakis, qui dit faites comme elle, en fait. Oui, oui.
Oui, c'était en fait, elle travaillait sur le traité des objets musicaux, projet qui était aussi en parallèle et qui explique aussi la volonté de Schaeffer de diriger une équipe vers une recherche fondamentale sur l'écoute et sur, on va dire, une forme de phénoménologie de l'écoute et de la musique à travers la reconnaissance et la définition des objets musicaux. Et donc, en parallèle de cela, il souhaitait travailler avec Xenakis, notamment sur un concert collectif avec Chamas Kirou, Ferrari et Mash. Notamment, donc le projet était dans un premier temps dirigé par Luc Ferrari et par Yanis Xenakis. Luc Ferrari, finalement, s'est petit à petit éloigné de la direction du projet, mais continue de participer au projet en tant que compositeur qui va produire, si vous voulez, participer à la création d'une œuvre. Petit à petit, on n'est plus dans créer des mouvements séparés, mais créer des. L'idée de Xenakis, c'était de rajouter, si vous voulez, des lois stochastiques autour de. La création de matières premières qui seraient des séquences musicales qui seraient enregistrées ou dans le cadre de musique mixte composée avec bande qui avec la participation de l'orchestre alors de l'ensemble instrumental de musique contemporaine de Paris dirigé par Simonovitch dont on entend aussi parler en parallèle. Donc c'est un orchestre qui travaille avec le service de la recherche. Et dans ce cadre-là, il était mis à disposition du service de la recherche pour enregistrer des séquences, lire des partitions, enregistrer des improvisations, des intentions musicales, etc. Donc Xenakis, petit à petit, décide de demander à chaque compositeur, alors là on est en 62, en mai 62, il demande à une nouvelle série de compositeurs, donc avec François Bell, Edgardo Canton, Luc Ferrari, Ivo Malek, Bernard Parmigiani et Michel Philippot, d'enregistrer chacun 9 séquences. Donc on se retrouve avec un paquet de 54 séquences à écouter, donc en réunion du service de la recherche en présence de Pierre Schaeffer, tout le monde est des compositeurs, tout le service de la recherche écoute les séquences, et là, impossible de s'entendre sur le fait de comment on va agencer les séquences. Xenakis repropose une nouvelle...
Parce que le style de chacun des compositeurs était trop idiosyncrasique. Alors, et qu'il y avait plusieurs plus de cohérence stylistique globale.
Il y a l'arbitraire de comment on va faire s'enchaîner, superposer les parties. Comment on va décider? Xenakis propose à ce moment-là de nouvelles règles mathématiques pour essayer de mettre en place une forme arbitraire.
D'accord.
Les compositeurs disent oui, discutent de ce phénomène, et en parallèle de cela, Schaeffer dit, parce que lui, Schaeffer dit qu'il ne croit pas, pardon, il croit un concert collectif, mais pas une œuvre collective. Et là, d'une part, il trouve que on a la signature de chaque compositeur qu'on peut reconnaître dans les différentes séquences. Notamment, il y a certaines pièces où on a des sons très signés en termes de transformation, il y a des insertions de musique concrète, etc., qui sont très très spécifiques. Et d'autre part, Schaeffer, par le biais, je suppose, d'autres compositeurs qui trouvaient que Xenakis dirigeait, si vous voulez, le projet, et que du coup, c'était plus vraiment un concert collectif, dit... qu'en gros, il s'accapare le projet, Xenakis, et ordonne aux autres il lui reproche de s'accaparer le projet et d'ordonner aux autres de la direction dans laquelle ils doivent aller.
Et là, c'est le moment de la rupture.
Ça va gâter vraiment.
Là, oui, vraiment. Oui, oui. Il lui écrit une double lettre, une à la deuxième personne du singulier, l'autre en le voyant, pour lui dire qu'il ne sera pas de l'aventure.
Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on voit que d'un côté, il y a l'ami potentiel qui lui écrit en le tutoyant, oui, et l'homme d'institution qui...
Oui, il incarne le dédoublement.
Et ensuite, il le vouvoie, effectivement. Mais d'abord, ils sont toujours mon ami, etc. Alors, je vais vous continuer les chroniques. Chacun avait droit de puiser au commun réservoir et de développer. C'était la scène, c'est avec un C, dont Yanis ne fut en rien le Judas, mais l'Antéchrist. L'Antéchrist. Les deux prêtres des deux religions si opposées ne pouvaient continuer à se faire face sans anathème, continuer à collaborer sans compromission. Yanis s'éloigna dans la pesanteur, n'oubliez pas que c'était un vaisseau spatial, vers son propre astronef.
Alors avant de parler de son astronef, on va écouter un extrait de ce concert collectif, donc ce n'est pas une œuvre de Xenakis, mais d'un compositeur qui a trouvé une astuce. Il a appelé son œuvre Composé Composite. C'est une façon de s'en sortir de...
Oui, c'est la pièce de Ferrari.
Absolument. Quelles solutions ils ont trouvées alors pour assembler les œuvres à l'arrivée?
On est revenu, parce que là, vraiment, le schisme a eu lieu en mai 62 et la création a été prévue pour juillet. En fait, c'était programmé dans le cadre de la saison, ouais. C'était au Ranelagh. Et ce qui a été décidé au final, c'est que les compositeurs produiraient une œuvre utilisant les 9 séquences de chaque compositeur, pas forcément les leurs, et qui créeraient soit des œuvres électroacoustiques, soit des œuvres mixtes avec la participation de l'orchestre. Donc dans ce dernier concert, on a Bell, Canton, Ferrari, Malek, Parmigiani, Carson, Jean-Étienne Marie, Michel Philippot, Nguyen Van Trung, et également Romuald Vandel qui ont participé à ce projet, donc parfois en binôme. Ça a donné lieu à un premier concert qui n'a pas été une vraie réussite, notamment parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs compositeurs qui utilisaient les mêmes séquences, parce qu'ils les trouvaient bien et que ça manquait un petit peu de cohérence. Après, ils ont refait un autre concert au Conservatoire de Paris le 18 mars et ça a été la forme plus ou moins définitive qui a ensuite été programmée à la Biennale de Venise la même année ou encore au Festival de Zagreb. Et on vient d'écouter un extrait en fait de Composé Composite qui est le final en fait de ce concert collectif. qui a été édité chez Prospective 21 aux éditions Philips quelques années après, en 58. Et c'est vrai que Xenakis n'est pas du projet, oui. Même s'il a participé à la sélection et également encouragé l'émergence de ces séquences initiales.
Dans l'intervalle entre la dispute de 59 et cette espèce de début de rupture en 62, il y avait eu le Miam. Vous avez retrouvé, Maki Xenakis, des traces d'un compte-rendu de réunion de juillet 1960. Le Miam, apparemment, c'était un acronyme de prénom entre Michel Philippot, Yanis Xenakis, Alain de Chambure ou Abraham Molls, puisque les deux en étaient. Puis il devait y avoir un autre Michel, puisque il y a un deuxième M. Et donc, ils avaient prévu des séances, et il était question de réaliser un Xénatron.
Oui.
Qui était une machine décrite pour former d'un certain nombre de systèmes électroniques couplés dont les fréquences propres seraient placées dans le domaine de l'audible.
Oui, peut-être que Pierre, tu peux...
Non, je ne sais pas trop de quoi il peut s'agir. Peut-être quelque chose qui permettrait d'automatiser un peu des générations d'impulsions. Je peux imaginer que c'est
possible. Oui, c'était l'ordinateur révolutionnaire.
Des impulsions extérieures, effectivement.
Voilà, donc ça doit être une manière de... d'avoir un instrument de synthèse qui soit différent du montage par bande. Enfin, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas que Xenakis proposait quelque chose de cet ordre-là, puisque c'est très précisément ce qui lui manque au GRM. Au GRM, il y a bien sûr tous les outils dont on peut rêver à l'époque en termes de musique électronique, mais pour que le lien soit fait entre l'informatisation, on va dire, et la synthèse sonore, il va falloir attendre encore quelques années. Donc là, peut-être qu'il est en train d'essayer de rêver à une machine qui lui permette de faire ça avant l'heure.
Est-ce que vous, votre conclusion, c'est que Xenakis avait moins besoin du GRM que d'un ordinateur ?
Oui, je pense qu'en fait, le vrai outil de Xenakis, au fond, c'est l'ordinateur. C'est pas la bande magnétique. La bande magnétique, c'est un support qui est lié à un contexte historique, en fait.
Il a travaillé avec IBM après.
Oui, juste après.
Et après, il y a le CMAMU. Donc, c'est l'aube de tout ça.
Oui, moi j'allais dire que c'est effectivement, d'ailleurs Schaeffer lui dit t'as pas besoin du GRM pour mener ta carrière, enfin même Schaeffer en avait conscience.
Oui, ça il l'a bien compris. Oui.
Et c'est assez étonnant parce que même cet outil, le Xenatron, ça présage aussi de ce qu'il va faire par la suite, que ce soit Lupik ou même Gendy, le programme de synthèse. L'idée c'est déjà là sans forcément les moyens, c'est ça qui est. Ça reste un homme de.
Alors, vous venez de citer, Maki, le CMAMU. Donc, EMAMU, ça veut dire équipe de mathématiques et automatique musicale. Et en fait, il avait échoué avec le GRM. Pompidou avait voulu qu'il soit co-directeur de l'IRCAM, mais il ne s'entendait pas du tout assez avec Boulez pour que ça se fasse. Donc, il a créé son outil collectif, en quelque sorte, avec cette équipe.
Mais il travaillait déjà dans les années 60 avec IBM, déjà.
Oui.
Donc, cette idée, elle vient du Xenatron, utiliser un ordinateur pour faire sa musique. Donc, le Xenatron, ça n'a pas marché. Après, avec IBM, il a fait plusieurs œuvres. Et puis, après, il a créé le CMAMU, qui s'appelle après EMAMU.
C'est EMAMU d'abord.
EMAMU, CMAMU, puis après UPIC. Donc, ça change de nom, mais c'est toujours la même chose.
Mais ça prédate la fondation de l'IRCAM.
Oui, c'était avant l'IRCAM.
Bien sûr, c'est en 77 l'IRCAM. Mais n'empêche que quand il refait l'histoire, là, il repasse par l'invocation de Schaeffer. Il dit qu'il avait proposé à Schaeffer de créer, au sein de son service à la RTF, une recherche fondamentale visant l'analyse et la synthèse des sons, ainsi que la composition à l'aide d'ordinateurs. J'avais déjà obtenu des promesses d'aide de chez IBM, dit-il, pour 1960, mais Pierre Schaeffer avait un parti pris qui était très divergent du mien, il refusa. Et ensuite, l'année d'après, Xenakis écrit que grâce au congrès international de Gravesano, organisé en août 61 par Cherchen, il entrait en contact avec des chercheurs plutôt de dimension internationale qui ont allé lui permettre de faire avancer les questions de synthèse. Ce congrès de Gravesano va être salvateur pour lui à la sortie de ses disputes avec Schaeffer.
Oui, ça lui donnera, je suppose, d'autres contacts pour, donc, par exemple, avoir accès à un mainframe IBM sur lequel il va disposer d'une heure pour faire des calculs qui vont lui permettre de faire de la génération symbolique, c'est-à-dire que ça va lui donner une partition, alors que là aussi, bien sûr, il va rebidouiller, hein, évidemment. avec laquelle il va écrire plusieurs pièces. Enfin, ses résultats de calcul vont lui permettre d'écrire plusieurs pièces. Mais en fait, il n'aura de cesse, avec tous ses différents projets, d'essayer d'utiliser des ordinateurs pour écrire sa musique ou ses spectacles lumineux. C'est le cas aussi avec les polytopes. Alors, c'est vraiment passionnant quand on regarde les différents polytopes. À chaque fois, il y a un dispositif technique qui évolue en fonction des moyens de l'époque, des budgets, des technologies disponibles. Donc, par exemple, il y a le premier polytope à Montréal en 67, qui utilise des capteurs, des cellules photoélectriques et puis une bande de film cinéma pour activer toutes les lumières avec des bandes magnétiques pour le son par-dessus. Polytope de Cluny et le diatope, là ce sont deux bandes magnétiques, l'une numérique, l'autre analogique qui permettent de faire tout ça. Voilà, donc il y a toujours de la génération, c'est toujours par l'ordinateur qu'il va essayer de produire sa musique.
Alors, je voudrais dire que ce qui unissait beaucoup Yanis et Pierre Schaeffer, c'était leur ami, vraiment Scherchen. Pierre Schaeffer aimait beaucoup Scherchen, il le considérait comme un père spirituel, et Yanis aussi. Et ce qui les unissait aussi, c'était leur opposition à la musique sérielle. Tous les deux ne voulaient pas en entendre parler. Et alors, je voudrais dire à propos du polytope, moi j'étais présente quand le polytope a été donné sous la pyramide du Louvre. Seulement, ça a été une catastrophe parce qu'il n'y avait pas du tout la lumière, il n'y avait pas les lasers, il n'y avait rien. Et les gens commençaient à râler. Et j'étais là quand j'ai vu. Peut-être que tu y étais, en tout cas. Ta mère y était.
Oui,
je me souviens très bien. On était couchés par terre, on était sur des coussins. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de révolte et tout le monde a balancé son coussin dans la pyramide du Louvre. Il y a une espèce d'explosion. C'était magnifique à voir. Et ça, c'est un souvenir inouï. Là, j'y étais.
C'était en quelle année ?
Mais ça, c'était en hommage à la mort de mon père après sa mort.
Voilà,
c'est
voilà.
Pas lui qui avait organisé ça en 2001.
Bien sûr, mais il y avait ta mère. Je me souviens qu'on était ensemble.
Oui, il y avait
ensemble.
Ma mère. Oui, mais c'est pas ensemble. Lui qui avait organisé ce spectacle sans lumière.
Et bien sûr que non, il n'aurait pas du tout accepté.
Il n'aurait pas accepté.
Jamais il
sûr.
N'aurait accepté. Les gens ont spécté.
Non, mais c'était...
Et la lumière, disait, commençait à râler. Ouais, il y a eu vraiment une révolte.
Nicolas Debade, vous avez attiré mon oreille sur un extrait du solfège de l'objet sonore de Pierre Schaeffer où apparaît Xenakis alors qu'on est après la rupture.
Bah oui, c'était en 67-68. Enfin, il travaillait dessus à partir de 66. Et effectivement, il donne à entendre deux extraits. Il y a
Métastasis
et Honta, je crois.
Et Honta,
ouais. Ouais. Et en fait, c'est justement pour illustrer. C'est le dernier disque qui, une fois qu'on a parlé de l'objet sonore et de la constitution, de l'écoute, etc., parler de la forme, en fait, qui est le dernier sujet du solfège. Et c'est par rapport justement les idées. Mathématiques qui peuvent être suggérées justement et suggérer une forme et une structure musicale.
On a reconnu Xenakis. C'est bien là, dira-t-on, une musique d'architecte, certes, mais il lui arrive aussi d'user, dans Eonta, de notes profilées à l'envers qui puisent sans doute leur inspiration dans quelques souvenirs expérimentaux. Tenterons-nous alors d'interroger un compositeur sur les idées qu'il inspire, puisque nous affirmons, les moyens étant surmontés, que les idées seules importent. Examinons une œuvre de Luc Ferrari, dont une première version fut réalisée à Gravesano, à l'initiative du regretté Hermann Scherchen, auquel nous aurions aimé faire l'hommage du présent travail. Ce qui nous intéresse dans ce Tautologos, c'est d'avoir enfin de la part de l'auteur une sorte d'explication. Voici sa proposition initiale.
Il y a eu quand même d'autres contacts après ces lettres des années 62 jusqu'à 65.
Bien sûr, il y a eu des relations amicales quand même, bien sûr.
C'est aussi ça, qui n'était plus du tout musical.
Ah, ouais. Je ne sais pas.
Et en tout cas, il y a des œuvres, quand on regarde les programmes de concerts, on voit que les compositeurs continuaient de se croiser, que les concerts du GRM continuaient. Il y a eu des pièces de Xenakis qui ont continué d'être jouées. J'ai le souvenir aussi d'une photo, alors qui est assez amusante, de 81, où on voit Pierre Henry, Pierre Schaeffer Yannis Xenakis sur la même photo, tout sourire à la présence, enfin présent à un concert. Donc effectivement, de fait, ils se croisaient. Ils se côtoyaient à minima après.
Donc vous avez fait le deuil d'une collaboration pour continuer à avoir des rapports cordiaux, et c'est ça.
Enfin, ils se sont plus tellement vus, mais c'était un peu éloigné quand même.
Oui.
C'était puis aussi.
Parce que dans la toute dernière lettre qu'on a retrouvée, parce que peut-être il y en a eu d'autres, hein, mais dernière lettre que Xenakis écrit en avril 65 à Schaeffer, il ressort des vieux souvenirs donc qu'il a absolument pas digéré, du genre tu n'oublies pas ce jour où exprès tu m'as fait attendre devant ta porte de ton bureau pour me signifier au bout d'une heure par écrit que tu n'avais pas le temps de me recevoir.
C'est très mal terminé, cette histoire. Ils se sont hurlés dessus l'un et l'autre.
Ah oui.
Moi j'y étais.
Et ça
souviens,
c'était en quelle année?
Dans l'escalier j'y étais. Je ne l'ai pas tellement souvent là-bas, mais
c'était
j'y étais.
Université, ouais.
C'était à l'université, dans l'escalier, j'ai entendu hurler.
Une querelle revue et visitée par David Christoffel entre Yannis Xenakis et Pierre Schaeffer, en compagnie de la femme de l'un et de la fille de l'autre, et de deux musicologues, Pierre Carré et Nicolas de Bade.
Retrouvez Paroui Dire tous les jours de la semaine, entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.